Alors, on va prendre la parole de Dieu dans 1 Samuel 19, versets 1 à 24. Donc, c'est la suite de notre passage. Nous sommes dans 1 Samuel. Nous sommes en train de regarder la vie de David, du roi David. Et pour le contexte, eh bien, de nouveau, David va subir les assauts, de Saül. La jalousie et l'amertume sont à son comble. Et maintenant, il veut vraiment le tuer. 1 Samuel 19, versets 1 à 24. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit : Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père, dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. « Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David ? » Saül écouta la voix de Jonathan et jura, disant : « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles, puis il l'amena auprès de Saül et David fut à son service comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit : « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le théraphime qu'elle plaça dans le lit, elle mit une peau de chèvre à son chevet, et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit : « Il est malade. » Saül les renvoya pour qu'ils le voient, et il dit : « Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. » Ces gens revinrent, et voici le théraphime était dans le lit, avec une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal : Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé ? Michal répondit à Saül : Il m'a dit : Laisse-moi aller ou je te tue. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najot. On le rapporta à Saül en disant : Voici, David est à Najot près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient avant, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit un rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la troisième fois et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda : Où sont Samuel et David ? On lui répondit : Ils sont à Najot, près de Rama. Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit : Saül est-il aussi parmi les prophètes ? Alors on a déjà tous été en conflit avec une personne. On a déjà tous, j'imagine, dû subir l'agressivité d'une personne, de quelqu'un, que ce soit dans des relations professionnelles, que ce soit dans le voisinage, c'est fréquent dans le voisinage malheureusement, hein. Parfois c'est même des personnes qu'on ne connaît pas et puis pourtant qui sont agressives et qui nous agressent. On peut rencontrer quelqu'un dans un magasin pour une histoire de caddie ou une absurdité. Ou parfois, c'est des personnes proches ou qu'on pensait proches, puis d'un seul coup, elle semble belliqueuse et querelleuse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si nous sommes enfants de Dieu, citoyens du ciel, comme on en a parlé un petit peu, si on appartient à Jésus-Christ, on ne peut pas réagir comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ça, ce n'est pas possible. Un proverbe dit, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. » Ainsi un homme excite la colère d'un homme. Et c'est assez naturel, c'est facile de rendre coup pour coup, agressivité pour agressivité, haine pour haine. Ça sort naturellement de notre cœur. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce principe, œil pour œil, dent pour dent, c'est inscrit en nous. Ça nous semble légitime. Il faut qu'il y ait une justice. Hein. Alors bien, que je fasse justice. Ou bien, c'est une histoire d'honneur. Hein. Même, je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds, pour ne pas dire honneur, mais pour ne pas dire orgueil, quoi, peut-être. Hein. Finalement, eh bien, on veut réagir. Maintenant, qu'est-ce que Jésus nous a enseigné ? Certainement pas de rendre coup pour coup, œil pour œil. Et quand on regarde les évangiles, souvent les personnes qui ne lisent pas la Bible, ils connaissent bien l'histoire de la joue. Hein. Voilà, si on te frappe sur la joue droite, eh bien, tant lui aussi l'autre. Ça, ils le connaissent bien et ils tournent ça complètement en dérision. On va lire Matthieu 5, juste faire une petite interlude avec un autre texte. Matthieu 5, 38 à 48. Matthieu 5, 38. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. » Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécute, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et quand on lit ce passage, eh ben, c'est sans ambiguïté, l'idée de rendre coup pour coup, non, ce n'est pas possible. Si on aime le Seigneur, si on veut suivre ce que le Seigneur nous dit, ça doit être absent, ça ne doit pas être dans notre habitude, absent de notre vie. Parce que c'est facile. C'est facile de rendre coup pour coup, et qui n'est pas tombé ici, hein ? Simplement dans une réaction, personne, hein ? On est tous identiques. Mais c'est bien de comprendre que Dieu ne veut pas nous abandonner face à ce genre de difficultés qu'il y a dans le monde. Alors certes, il nous demande l'impossible. Là, c'est l'impossible. Aimez vos ennemis. Soyez parfaits comme votre Père Céleste. C'est impossible. Seigneur, c'est au-delà de notre portée. Mais on n'est pas sans ressources, d'abord, face à une attitude qui est méchante ou agressive ou haineuse. Dieu, premièrement, c'est sûr, il veut nous donner des ressources intérieures pour surmonter justement cette agressivité qu'il y a dans ce monde et pour qu'on ne rende pas coup pour coup. Si on reste près du Seigneur, dépendant de lui, il veut nous donner ses ressources. Mais j'aimerais qu'on puisse voir ce matin que Dieu est aussi là pour nous soutenir et nous protéger si on adopte la bonne attitude de cœur. Et plutôt que de répondre à l'agression par l'agressivité, Dieu peut nous donner des ressources pour nous permettre d'être protégés quand on est face à un conflit, à quelque chose qui est difficile. Et donc, on va voir ces différentes ressources. La première ressource, c'est faire appel au bon sens et à la raison. C'est ce qui s'est passé. Regardez, on va reprendre 1 Samuel 19:1 d'abord. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Donc on voit Saül qui est résolu à faire du mal à David. Là, c'est bon, sa haine veut le pousser au meurtre, il veut en finir. Mais David n'a pas mal réagi jusqu'à présent vis-à-vis de lui, pas du tout. Même si Saül a déjà manifesté une envie de meurtre, David, lui, est resté innocent. Il est resté du côté de Dieu. Il n'a pas voulu faire du mal. Au contraire, il a voulu faire du bien au roi. Il n'a pas répondu par l'agressivité. Et c'est touchant quand même. Encore une fois, on vient de voir dans le psaume 119, voilà David qui se dit, voilà, je suis étranger. Mais là, c'est déjà un enseignement de Jésus. Déjà à l'avance, il ne veut pas rendre le mal pour le mal. Quoique lui était sous la loi de Moïse, hein, œil pour œil et dent pour dent. Mais il voit loin de l'Éternel et il se dit, mais je vais désobéir à Dieu si je m'attaque à loin de l'Éternel. Alors, eh bien, il se tient éloigné, hors de question de rendre mal pour mal. Et Dieu va utiliser Jonathan pour ramener Saül à la raison. Regardez les versets 4 à 5 que l'on peut relire. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David ? Et là, on voit que Dieu va se servir de Jonathan pour amener Saül à raisonner. Et l'amener à la raison, en fait. Hein. Il est encore possible de raisonner Saül et lui dire, mais attends, t'es en train de te tromper là, t'es en train de faire fausse route, t'es en train de vouloir faire du mal à quelqu'un qui ne te veut pas du mal. Et là, il y a comme une prise de conscience. Hein. Il réalise, et verset 6, Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, l'Éternel est vivant. Il jura, fort, hein, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Il y a comme un éclair de lucidité. Et c'est bien de se dire que quand on est face à quelqu'un et il y a un vrai problème, eh bien, la première chose à faire, c'est de prier et dire, Seigneur, mais permets qu'il y ait voilà, une compréhension, une lumière, que quelque chose se passe et que la personne réalise qu'on fait fausse route là, ce n'est pas la bonne direction. Et même vis-à-vis de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, on peut prier et dire, Seigneur, mais interviens, fais quelque chose. Dieu peut agir sur une personne pour que la raison lui revienne. C'est pour ça aussi que parfois, eh bien, il faut parler, ou bien Dieu va se servir de quelqu'un qui parle pour permettre eh bien, qu'il y ait une prise de conscience. Mais parfois, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de prise de conscience possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, c'est la suite. Regardez, une deuxième ressource face à un conflit, c'est parfois la fuite. Versets 9 à 10. Alors le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, il jouait de la harpe, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Et la fuite, ça peut paraître quelque chose de lâche. Fuir, oh non, hors de question. Mais la parole de Dieu nous montre que la fuite, parfois, c'est l'intelligence. Parfois, c'est ce qui est sage. C'est ce que Dieu attend, justement, de nous. Parce que c'est un enseignement des Écritures. Il y a un proverbe, je vais vous le lire, hein, ne le prenez pas, proverbe 17, 14, qui dit « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Voilà. Mets-toi à l'écart, fuis plutôt. » Donc la fuite c'est une ressource, c'est un moyen que Dieu met à notre disposition pour nous préserver. Parce qu'il y a des situations où la raison, elle n'est plus là, elle n'est plus en jeu. Quand une personne est braquée, quand elle est dure, ben la discussion parfois, elle est impossible. On ne peut pas raisonner. Parfois l'homme est submergé par des sentiments, des mauvais sentiments. Alors de toute façon, quoi que l'on dise, on aura toujours tort. Donc, ce n'est même pas la peine. Et dans ces cas-là, ou lorsqu'on voit qu'on va en arriver là, hein, puisque le verset dit, avant que la dispute s'anime, retire-toi. C'est vraiment, tu vois où ça va mener, mais retire-toi. Ça ne veut pas dire prendre littéralement ses jambes à son cou d'une manière, voilà, en partant en courant, hein, mais prendre de la distance. Si le dialogue, de toute façon, n'est pas possible, alors on prend de la distance. De même, Dieu n'a jamais encouragé ses disciples à prendre les armes et à rendre coup pour coup. Au contraire, il leur a dit dans l'Évangile, « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. » Voilà. Et continuez comme ça, plutôt que de rendre coup pour coup. D'une certaine manière, même notre Sauveur a fui quand il était bébé. C'est Hérode qui voulait tuer tous les enfants. Et Dieu a envoyé un ange pour dire à Joseph, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Et parfois, il n'y a pas d'autre issue que de fuir ou se séparer. Quand on pense à Paul et Barnabas dans les Actes, ils ont eu un différend entre eux, hein, un dissentiment, dit la parole de Dieu. Pourquoi ? C'était au sujet de Marc. Est-ce qu'il fallait prendre Marc avec eux ou pas ? Marc avait montré des signes d'infidélité. Alors, eh bien, du coup, Paul ne voulait pas, Barnabas voulait. Et la Bible dit, traduit, donc c'est second, il dit, « Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. » Et Darby, lui, dit, un autre traducteur, « Il y eut donc entre eux de l'irritation, en sorte qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. » Dans d'autres traductions, c'est le mot « désaccord » ou « contestation ». Et les deux apôtres auraient pu tergiverser là pendant longtemps comme ça, chacun essayant de convaincre l'un de son opinion, mais voilà, ça prenait une proportion, il y avait de l'irritation. Alors plutôt que de continuer dans une discussion qui est stérile de toute façon, ils se séparaient. Entre parenthèses, ce qui est admirable, c'est à la fois la pudeur du récit des Actes qui nous explique cette histoire, et puis c'est de voir un peu plus tard que Barnabas et Paul ont su tourner la page. Ils ne sont pas restés en gardant de l'amertume jusqu'à la fin. Et ça, c'est important aussi. Hein, vous savez, parce que il y a des chrétiens, malheureusement, qui peuvent garder une amertume, je ne dirais pas éternelle, hein, parce que Dieu ne leur permettra pas. Mais en tout cas, tant qu'ils sont sur terre, eh bien, ça ne se règle pas et c'est dommage. Mais on voit que se séparer, c'est une manière aussi de fuir un conflit. Et Dieu, parfois, nous dit de fuir, et particulièrement si on se retrouve devant quelqu'un qui est insensé comme Saül. Ensuite, la troisième ressource, c'est que parfois, Dieu peut nous donner quelqu'un d'extérieur qui va nous aider. Alors, on a vu Jonathan, qui est venu aider David, hein, qui l'a défendu devant son père. Mais au verset 11 et 12, on voit un autre appui. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Et Dieu a utilisé deux des enfants de Saül pour protéger David. Il a utilisé Jonathan, son fils, et après, il a utilisé Michal, sa fille, donc, qui avait été donnée à David pour épouse. Et même, au départ, Saül se disait, je vais utiliser Michal pour qu'elle soit un piège. Ah ben non. Dieu a retourné la chose et Michal n'est pas devenue un piège. Au contraire, elle est devenue un appui et une délivrance pour David. Et ici, l'étau semblait se resserrer sur David. Au moment où Saül, ça l'est, il est sûr, je vais l'avoir. Il est chez Michal, c'est sûr, là, c'est bon, je vais l'avoir. Et Dieu intervient par un appui donc, qui était extérieur. Et donc, il faut considérer que Dieu n'est pas sans ressources pour venir nous secourir, nous aider quand quelqu'un nous veut du mal ou nous est hostile. Il y a un exemple aussi dans les rois d'Israël. Il s'agit de Ézéchias, roi de Juda. Ézéchias, c'était un bon roi, quand même, qui abattit les idoles, toutes les statuettes et toutes ces choses que Dieu réprouvait. Mais il y avait plein de nations qui étaient fortes et puissantes autour de lui. Et il y avait notamment l'Assyrie qui obligeait Ézéchias à payer un tribut. Et à un moment, Ézéchias n'a plus voulu payer ce tribut au roi d'Assyrie. La réponse, et c'est pas fait attendre, elle est vite arrivée. Et Sanchirib, donc roi d'Assyrie, a envoyé une puissante armée et a commencé à parler de manière très sévère à Ézéchias. Ézéchias déchira ses vêtements, il se couvrit d'un sac et puis il envoya un message au prophète Ésaïe. Il lui a dit, peut-être ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshaké. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. S'il te plaît, prie, Esaïe, interviens. Est-ce que Dieu peut nous secourir? Et Dieu va lui répondre donc par Esaïe, 2 Rois 19, 6 et 7. 2 Rois 19, versets 6 et 7. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Une parole, une nouvelle, et le roi d'Assyrie va faire demi-tour et va partir. Et qu'est-ce que c'était cette nouvelle? C'était le roi d'Égypte qui a voulu faire la guerre au roi d'Assyrie. Et quand ça lui est venu aux oreilles, il a dit, bon, là, je suis obligé de faire demi-tour. Et c'est incroyable. Dieu a utilisé un roi du continent africain pour aller frapper au bon moment le roi d'Assyrie afin que son peuple soit protégé. Donc, il s'est servi d'un appui qui était extérieur. Et Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut utiliser un appui qui vient de l'extérieur. Quand Jérémie, le prophète Jérémie, a été jeté dans la citerne, souvenez, il n'y avait pas d'eau dans la citerne, il y avait de la boue. Il s'est enfoncé dans la boue. Probablement, j'imagine, ils ont fermé au-dessus, dans le noir, dans la boue, aucun secours. Et à ce moment-là, il y avait Ebed-Melech, éthiopien, tiens, un autre éthiopien, curieux, hein, eunuque, qui était dans la maison du roi et qui a appris que Jérémie était dans la citerne. Il est allé voir le roi, il a dit, mais mon roi, tu ne peux pas le laisser comme ça, il va mourir de faim. Et le roi l'a fait sortir de la citerne. Le secours vient de l'Éternel et il peut se servir de quiconque. Il fait ce qu'il veut, il est libre. Et pour David, il s'est servi de Michal. Enfin, si ça l'exige, Dieu peut même intervenir lui-même. C'est ce que l'on voit au verset, à partir du verset 18. On va lire le verset 18 d'abord. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. Donc là d'abord on voit David, il s'enfuit après avoir été chez Michal et il va trouver Samuel. Et il va déverser son cœur et lui dire, mais regarde ce que Saül me fait. En fait, en déversant son cœur, c'est premièrement une chose qui est bonne et parfois il faut faire. Il faut trouver un appui, quelqu'un où on va dire, voilà ce que je vis. Aide-moi en fait, porte-le avec moi. Et aussi en allant vers Samuel, vers le prophète, c'est un peu comme s'il allait aussi vers Dieu et qu'il allait chercher l'appui, qu'il allait chercher le soutien de Dieu. Demander qu'il puisse intervenir en notre faveur. Et ça, c'est important. Versets 19 à 20. On le rapporta à Saül en disant, « Voici, David est à Najoth, près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les prophètes de l'Ancien Testament étaient des hommes qui étaient choisis par Dieu et que Dieu remplissait, saisissait par son esprit, pas simplement pour proclamer l'avenir, mais aussi pour proclamer la parole de Dieu ou parler de la part de l'Éternel, de la part de Dieu. Et si on croit que la Bible elle est inspirée d'une manière littérale, verbale, plénière, c'est-à-dire dans chaque mot, dans chaque lettre, bien sûr, des originaux, pas des traductions, c'est qu'on croit que Dieu a insufflé, il a inspiré les prophètes pour qu'ils écrivent ce que Dieu voulait qu'ils écrivent. Et Dieu n'a pas violé leur personnalité, il s'est servi au contraire de ce qu'ils étaient dans leur personnalité, dans leur culture, dans leur connaissance, avec leur intelligence, mais il les a poussés à écrire ce que lui voulait qu'ils écrivent. Et c'est très important. Donc, un prophète qui était rempli de l'esprit et poussé ne pouvait pas dire autre chose que Dieu voulait, que ce que Dieu voulait qu'il dise. On pense à Balaam. Balaam voulait maudire Israël. Et c'est la bénédiction qui sortait de sa bouche. Il ne pouvait pas faire autrement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsque les hommes de Saül sont arrivés, l'Esprit de Dieu les a saisis et ils se sont mis à parler, poussés par Dieu, hein. Et peut-être ils ont dit des louanges sur Dieu, ils ont adoré, ils ont prophétisé. Et ils étaient complètement incapables de faire la volonté de Saül et obligés de faire la volonté de Dieu. Et donc là, ils se sont complètement désintéressés de David. Verset 21. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la troisième fois, et ils prophétisèrent également. Et à chaque fois que Saül envoyait quelqu'un, Dieu les saisissait par son esprit et les arrêtait net. Et ils ne pouvaient plus continuer dans leur élan. Alors, versets 22 à 24. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najot près de Rama. Et il se dirigea vers Najot près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Et là, il y a deux choses d'abord qu'on peut voir. C'est que Saül est saisi avant qu'il arrive à Najot. Il est en chemin, il est saisi par l'Esprit de Dieu, il se met à parler, à prophétiser. Mais il va encore, il avance, il veut arriver jusque David, semble-t-il. Mais lorsqu'il arrive au niveau de Samuel, et probablement David n'était pas très loin, il était à côté, Saül est dans un état tel qu'il est submergé par l'Esprit de Dieu. Submergé, peut-être avait-il des bouffées de chaleur, je ne sais pas, mais il commence à se déshabiller et il tombe par terre, nu. Incapable de faire quoi que ce soit. Incapable de frapper David. Dieu l'a arrêté d'une manière qui était directe. En réfléchissant à ce passage, un verset m'est venu à l'esprit, c'était « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Vous connaissez ce passage? Et j'aimerais qu'on le prenne. C'est Ésaïe 54, versets 15 à 17. Ésaïe 54, versets 15 à 17. Dieu dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et David n'avait pas cette parole, c'est Ésaïe qui l'a prononcée, mais peut-être que Samuel lui a donné une parole d'encouragement, quelque chose qui était du même acabit, qui ressemblait à ça. Saül était vraiment en train d'essayer de faire un complot, essayer de tendre un piège à David. Il voulait le frapper si c'était possible, mais Dieu a brisé son arme. Il l'a brisé et Saül lui-même s'est brisé d'une certaine manière, puisqu'il est tombé nu, on peut dire nu quand même, humilié, par terre, incapable de frapper David. Maintenant, replaçons tout cela dans notre contexte et notre contexte personnel. Probablement, vous n'avez personne aujourd'hui qui veuille vous tuer, j'espère pas. Ce ne serait pas une bonne chose. Mais c'est possible d'être avec des personnes où on nous prend pour cible, où on n'est pas très gentil avec nous, on est agressif, on a des paroles qui sont dures. Mais ce passage nous enseigne d'abord à aimer, à ne pas rendre coup pour coup et à faire confiance à Dieu. Il est puissant pour intervenir de différentes manières. Peut-être en nous disant « fuis », peut-être d'une autre manière, hein, peut-être parce que il veut qu'on prie et Dieu utilisera la raison et va permettre à la personne de changer. Peut-être simplement il faut espérer en Dieu et Dieu va intervenir par quelqu'un ou lui-même interviendra. Ceci dit, on sait que Dieu est fidèle quoi qu'il arrive. Et ce passage, ça ne veut pas dire que pour les enfants de Dieu, il n'y a jamais rien de désagréable qui pourra leur arriver. Ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Hein. Il ne faudrait pas qu'on croie ça par rapport à ce qui est écrit ici. David a été protégé de diverses manières. Dieu peut nous protéger de diverses manières. Mais il faut aussi relever que parfois, les enfants de Dieu passent par des choses qui sont vraiment difficiles. Il y a des souffrances et parfois, on n'est pas toujours protégé de la souffrance. Ça, c'est un fait. Par exemple, l'apôtre Paul, il a été réellement lapidé à Lystre. Dieu n'a pas arrêté les pierres. Hein. Les pierres sont arrivées, si bien que même il est tombé, il a dû s'évanouir. Et ils l'ont tenu pour mort. Donc la protection de Paul n'était pas dans l'éviction de la souffrance, dans le fait d'enlever la souffrance, mais c'était un secours au sein de la souffrance. Et parfois, Dieu permet qu'on vive vraiment des choses dures, mais on est protégé et la délivrance, elle est là, dans la souffrance. Et on sait que Dieu est fidèle. Ça, c'est une vérité qui est intemporelle. Dieu est fidèle. Même si nous sommes infidèles, Dieu est fidèle. Dieu reste toujours fidèle. Et plus que jamais, il est fidèle dans la souffrance. Et on sait aussi, une autre vérité, que Dieu fait tout concourir à notre bien. Que ce soit une opposition, que ce soit un conflit, que ce soit des choses difficiles, Dieu permet et il nous fait avancer, progresser dans la bonne direction. Et il peut aussi permettre ça dans notre vie. Mais on peut puiser une espérance dans notre texte, c'est celle que Dieu peut nous donner aussi des ressources au sein d'un conflit ou devant quelqu'un qui a des mauvaises intentions contre nous. David n'a pas été abandonné par Dieu, mais ça ne l'a pas empêché de vivre des heures difficiles, de l'angoisse. Imaginez, hein, quelqu'un qui vous en veut tout le temps, qui veut vous tuer. Ce n'est pas simplement qu'il a des paroles un peu difficiles, hein, il veut vous tuer. David a dû sentir la lance peut-être passer à ras de son visage et se planter dans la paroi. Il a entendu les hommes frapper chez Michal. Il a fui avec de l'angoisse dans le cœur. Puis il a vu Saül arriver. Quand il a vu Saül arriver, il a dû se dire, bon là, c'est bon. Il a vécu quelque chose de difficile. Mais Dieu a dit, jusqu'ici et pas au-delà. Stop. Et il faut se souvenir de Dieu. Il est souverain. Il est au-dessus. Il règne. Et il fait ce qu'il veut. Et si Dieu dit jusqu'ici, mais pas au-delà, eh bien, ça n'ira pas au-delà. Je me souviens d'une fois où j'étais en train de distribuer des traités dans la rue et un fou furieux est arrivé sur moi parce que j'avais mis un traité dans sa boîte aux lettres. Et il m'a tapé un grand coup comme ça. Pouf, tous mes traités ont volé comme des confettis, là. Et il a vociféré, et puis il est parti, après une minute, jusqu'ici, mais pas au-delà. Une autre fois, j'étais à Lille, quand j'étais tout jeune converti. Un homme agressif est arrivé sur mon pasteur à l'époque, et pareil, il était visage contre visage, en train de hurler, là. Je me suis dit, oula, ça va se terminer avec des points. Et puis il s'est tourné, et il est parti. Jusqu'ici, mais pas au-delà. Une autre histoire que j'avais lue, un témoignage, c'était un prêtre qui avait fait une démarche vraiment vers la parole de Dieu et puis qui, voilà, forcément, il y a des choses qui ont changé dans sa vie. Il a commencé à changer des choses dans sa paroisse et à ce moment-là, une paroissienne est arrivée dans une furie contre lui parce qu'elle n'était vraiment pas contente. Et quand elle est arrivée à son niveau, elle s'est effondrée. T'es pas morte, mais incapable de continuer. Jusqu'ici, Dieu fait ce qu'il veut. Et il peut arrêter aussi quelqu'un s'il le souhaite. Et pour nous, eh bien, il faut puiser dans le Seigneur sa force pour aimer nos ennemis. Pour ne pas rendre le coup quand on nous donne un coup. Il faut puiser la force d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. la force de dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors oui, c'est possible de recevoir une gifle, mais si Dieu nous dit « Tendez l'autre joue », c'est qu'il est aussi souverain et qu'il fait ce qu'il veut. Et donc on peut avoir confiance. Il ne va pas nous jeter en pâture et nous abandonner. Il est là et il règne, il est au-dessus, il gouverne, c'est notre Dieu.